Alors, je souhaiterais discuter ici à partir de quelques exemples. Dans quelle mesure les livres scientifiques de la période moderne, et là, je suis un peu confus de parler de la période moderne après avoir entendu Alan Marshall ce matin, mais tant pis. Donc, dans quelle mesure ces livres de la période moderne sont plus difficiles à publier que d'autres? Et j'aimerais montrer comment cette difficulté a pu être contournée dans certains cas. Et je m'appuierai sur deux domaines disciplinaires particuliers, l'histoire naturelle et l'astronomie, qui, à eux deux, dans leurs différences, permettent de récapituler les principaux enjeux de l'édition scientifique à la période moderne. Donc, je m'inscris là, ce faisant, dans une tradition historiographique sensible à la structure matérielle des ouvrages, à la reconstitution des conditions techniques et sociales de leur production. Et tout ça est dans une logique de reconnaissance de l'importance de la présentation matérielle des ouvrages dans la construction du sens. Maintenant, tout cela étant acquis, certaines questions restent encore largement ouvertes, et notamment une qui était encore rappelée ce matin ici même, la question du partage entre ce qui relève des décisions d'auteur et ce qui va concerner des choix d'ateliers typographiques. Alors, définir le livre scientifique des débuts de la période moderne implique déjà de tracer les contours de ce qu'on appellerait science. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas d'usage historique univoque du terme ou d'un autre terme équivalent. Il n'y a pas d'institution nette, d'institutionnalisation nette des pratiques savantes au XVIe ou XVIIe siècle. Donc, on ne peut s'appuyer que sur une définition qui reste empirique et qui sera pour partie rétrospective. Donc, je crois qu'il faut travailler avec ce type de catégorie souple qui tâche de ne pas créer d'absurdité par rapport aux catégories du passé, par exemple en séparant astronomie et astrologie, et puis qui soit aussi cohérente à partir des questionnements d'aujourd'hui. Par exemple, on pourrait mettre la théologie dans les sciences au XVIe siècle, mais ça ne serait pas forcément d'un très grand recours pour réfléchir sur le livre scientifique. Et même si on essaye de définir la science, on n'a pas pour autant une définition du livre scientifique, puisque tous ces livres, comme la plupart d'autres livres à l'époque moderne, se destinent à plusieurs publics, sont rarement destinés à un public univoque. Donc la catégorie de livre scientifique est elle-même tout à fait discutable. Mais bon, si au-delà de ces difficultés terminologiques que je ne cherche pas à esquiver, on essaye de caractériser un groupe de livres scientifiques, on peut en distinguer un certain nombre de caractères qui tendraient à les distinguer par rapport à l'ensemble de la production livresque. Un format souvent plus important que la moyenne, ce sont souvent des ouvrages de référence qui se lisent dans un espace de travail. Un recours plus fréquent au latin par rapport à l'ensemble de la production de livres contemporaines. Un rôle central des éléments non textuels, je pense aux illustrations techniques, aux graphiques, aux tableaux de données chiffrées. Une structure textuelle qui est souvent composite, avec des dispositifs de citation, d'autorité, qui sont souvent un élément important de ces livres scientifiques. Et puis, dans certains cas, par exemple en mathématiques, astronomie, l'usage de caractères spéciaux qui peuvent aussi contribuer à les caractériser. Alors j'en viens maintenant, dans un premier temps, à quelques exemples qui concernent l'histoire naturelle. Qui sont donc les livres d'histoire naturelle au XVIe et XVIIe siècle accordent une importance particulière à l'illustration. On trouve une très grande fréquence de livres illustrés à partir des années 1530 en botanique et à partir des années 1550 en zoologie. Ça devient, d'une certaine manière, la forme normale du livre. Et beaucoup de ces livres sont de surcroît des sommes qui s'attachent à dresser des inventaires du monde naturel. Et donc ce sont souvent des gros livres assez massifs, et parce qu'ils ont une visée encyclopédique. Mon premier exemple sera l'histoire de la nature des oiseaux de Pierre Belon, publié à Paris en 1555. C'est un important livre illustré, il comporte environ 300 gravures sur bois d'oiseaux, et cela explique en large partie le partage de cette édition entre deux libraires parisiens qui partagent les frais de réalisation des bois gravés. C'est un aspect qui a été étudié par Isabelle Pantin, qui est d'ailleurs, pour la réinscrire dans les lignées précédentes, a elle-même été formée par Jeanne Vérin-Forer. Donc on a ici deux émissions entre deux libraires qui visent essentiellement à se répartir les coûts. Et d'ailleurs, les deux libraires ne se sont pas simplifié la vie, donc ils ont fait chacun une page de titre propre, mais ils ont aussi fait des pages de titre internes pour chaque livre qui portent elles aussi leur marque. Donc ça veut dire que chacune des deux émissions est caractérisée par plusieurs variantes de pages de titre. Dans cet ouvrage, on voit tout à fait le rôle classique de l'illustration en histoire naturelle, avec une complémentarité texte-image, qu'en gros, on pourrait décrire de la manière suivante. L'image nous montre de quoi on parle, de quelle espèce il est traité, et le texte donne, à propos de cet animal, un certain nombre d'éléments de connaissance. L'image peut avoir souvent un rôle épistémologique majeur. Je pense par exemple à cette juxtaposition très connue d'un squelette humain avec un squelette d'oiseau. Et là, l'image est extrêmement parlante. Vous montrez ça à un zoologiste, il crie tout de suite à la naissance de l'anatomie comparée de 150 ans avant Cuvier. Mais notez simplement. Alors là, déjà, la confrontation visuelle est très, très performante ici. Et il y a un aspect qui est frappant, c'est le fait d'avoir utilisé le même système de lettres pour chacun des deux squelettes, ce qui revient à dire de façon très ferme que tel os de l'oiseau, de l'aile de l'oiseau, correspond à tel os du bras humain. Mais notre auteur Pierre Belon accorde une certaine importance à cette image et à ces images, et d'ailleurs discute dans les avis préliminaires de la fiabilité de ces images. Et on a, à travers cette citation, cette considération nous a ému. Alors, il parle des tout petits oiseaux, ce qu'il appelle les oisillons, qui sont en fait les passereaux, dont il dit qu'ils ont tous la même forme et on ne peut les reconnaître qu'avec les couleurs. Et donc, cette considération nous a ému de faire que les couleurs seront mises sur les portraits, comme on verra ci-après. Mais pour cela, il convient que l'oiseau peint... Mais pour cela, l'oiseau peint peut être sujet à changement de l'ouvrier. Donc le fait que ça soit, qu'il y ait plusieurs peintres peut modifier les mises en couleur de ces oiseaux. Et donc, il avertit le lecteur d'avoir plus d'égard au texte qu'à l'image, et qu'à l'image telle qu'elle est gravée ou telle qu'elle peut être peinte. Donc là, il y a une hiérarchisation de l'information entre la description textuelle contrôlée par l'auteur et les images qui lui échappent un peu dans la mesure où elles passent par l'intermédiaire d'artisans spécialisé. Et de fait, cette prudence est tout à fait requise quand on compare un certain nombre des exemplaires du livre lui-même. Et de fait, il y a à peu près 25% des exemplaires conservés dans les grandes bibliothèques publiques qui sont peints, mais cette mise en couleur est faite de façon très hétérogène. Et d'ailleurs, on trouve très peu d'exemplaires qui convergent par les choix de couleurs, ce qui suggère que ces exemplaires peints sous contrôle de l'auteur, s'ils ont vraiment existé, restent très minoritaires. Donc voici ici deux images du même canard. Donc elles sont juxtaposées au même texte, mais elles nous renvoient à deux canards différents. Et donc là, de façon assez intéressante, ces mises en couleur qui sont le fruit d'initiatives de lecteurs vont déplacer la lecture du livre que pourront en faire les lecteurs qui leur succéderont. Alors, second exemple... toujours à la même époque, au milieu du XVIe siècle. Excusez-moi, un autre élément intéressant où la logique économique et les logiques de circulation des savoirs se rejoignent, le fait que l'un des deux éditeurs réemploie tous les bois, toutes les matrices en bois gravées pour le livre de Pierre Belon sous forme d'un album d'oiseaux. Et donc, sous ce titre, Portrait d'oiseau, est publié deux ans plus tard une ressucée des images imprimées de tous ces oiseaux, auxquelles on donne sens en ajoutant une terminologie polyglotte, donc là un aspect très important, correspondance entre noms français, latin et grec, et puis on résume en somme, le contenu des chapitres de Belon par un quatrain qui accompagne chacun de ces oiseaux. Et là, on a un phénomène commercial tout à fait intéressant, à l'issue duquel des représentations savantes vont pouvoir avoir une circulation qui va bien au-delà du public auquel elles étaient initialement destinées. Et donc, toujours à la même époque, au milieu des années 1550, et publié à Rome le traité sur les poissons de l'italien Ippolito Salviani, qui appartient très clairement, on le voit déjà par ce frontispice, à la catégorie des livres de prestige. L'ouvrage est illustré de grandes planches gravées sur cuivre. Donc c'est un usage très précoce, peut-être même le premier, de la gravure sur cuivre dans une illustration de type naturaliste, dans un livre d'histoire naturelle, et un livre qui est imprimé par l'auteur lui-même. Donc là, on peut faire un lien entre la complexité du projet éditorial qui va associer des grandes planches gravées sur cuivre à des textes complexes, au fait que l'auteur est amené à assurer lui-même ce travail d'édition. Et le livre commence d'ailleurs par un grand tableau sur 120 pages qui récapitule toutes les références antiques sur les poissons. Donc les noms des poissons sont donnés en latin, en grec et en italien dans les trois premières colonnes. La quatrième colonne donne le trait dont on parle à propos de ce poisson. Et après, les six colonnes suivantes sont des références textuelles qui renvoient à des éditions elles-mêmes caractérisées dans la préface de ce tableau. Donc là, ce tableau est un des pires cauchemars typographiques qu'on puisse imaginer. Imaginez-vous relisant des épreuves de ce tableau. Et on retrouve l'ambition formelle de cet auteur à travers la méticulosité par laquelle il a voulu inscrire formellement ses planches dans la structure même du livre. Hein, les planches, vous voyez ici, sont paginées, elles portent les signatures de la collation de l'ouvrage, donc elles sont imprimées sur les mêmes feuilles que le texte, et ici on voit par transparence que du texte est typographié au verso de cette planche. Donc l'auteur a voulu à la fois utiliser la gravure sur cuivre qui était plus prestigieuse, tout en gardant l'étroite association, en gardant dans la mesure du possible, l'étroite association et juxtaposition du texte et de l'image à laquelle la gravure sur bois se prêtait bien, et la gravure sur cuivre, qui demande un passage sous une presse différente, à laquelle la gravure sur cuivre se prête beaucoup moins bien. Et cette ambition l'a amené à toute une série de repentirs, de modifications. Vous voyez par exemple cette gravure de l'anguille, dont on voit qu'elle a été retournée, on voit apparaître un ancien numéro de page dans un coin, qui n'est pas le même d'ailleurs que celui qui est finalement retenu, qui lui-même a aussi été modifié. Donc on voit la trace de tous les repentirs et les changements de pagination liés à l'avancée de la conception matérielle du livre. Ici un exemple où un second poisson, on retrouve encore les numéros de pages et de planches modifiés, et là un second poisson était rajouté in extremis, d'ailleurs on n'a même pas pu lui mettre de nom. Donc on voit très bien comment la planche a été conçue pour un seul poisson et un second ayant été glissé après sur la même plaque de cuivre. Et puis enfin, les évolutions de l'auteur ont évolué en cours d'impression et il recourt une douzaine de fois à des papillons collés pour modifier l'identification d'un poisson sur sa plaque de cuivre. Et là, il me semble qu'on a un effet très intéressant par lequel un certain nombre d'anomalies bibliographiques vont restituer ce que l'on peut considérer comme les points chauds scientifiques sur lesquels l'auteur va évoluer en cours pendant l'impression de l'ouvrage. De même, par exemple, son chapitre sur l'esturgeon, qui prend une ampleur inattendue parce que l'identification est beaucoup plus difficile que prévu, il est obligé de le prolonger en annexe du livre parce qu'il tombe, il va tomber sur la série des planches suivantes, et donc il s'en excuse et il renvoie son lecteur à un appendice pour continuer un développement philologique sur l'identification de l'animal. Et enfin, je voudrais noter que ces planches de cuivre ont souvent été célébrées par quelques historiens de l'art comme des sommets de l'illustration naturaliste, ce qui est tout à fait discutable. Si on prend par exemple cette gravure-là, on voit un poisson magnifique, mais on ne voit rien de plus qu'un poisson. Et on n'a, vous voyez, aucun des caractères de nageoire ou de dessin de la queue qui pourrait permettre de l'identifier plus précisément n'ont été soulignés par la technique de gravure. Et là, je crois qu'on a le sentiment que le passage à un nouveau support iconographique requiert la mobilisation d'artistes spécialisés et auxquels l'auteur n'a pas forcément les moyens de bien indiquer les points saillants du point de vue du contenu scientifique de son ouvrage. Alors maintenant, je voudrais nous porter presque un siècle plus tard avec ce traité sur les agrumes du jésuite italien Giovan Battista Ferrari. Donc un prêtre d'origine chinoise, un professeur d'hébreu et de syriaque au collège jésuite de Rome, puis professeur de rhétorique, avant de changer complètement de carrière en devenant le jardinier d'Urbain VIII. On dirait le consultant horticole aujourd'hui, peut-être, et de s'occuper de la Villa Barberini sur le Quirinal à Rome. Il en dessine les jardins, il y introduit des plantes exotiques rares et publie en 1633 un traité sur la culture des fleurs, qui est le premier livre consacré aux fleurs ornementales et dans lequel on trouve d'ailleurs la première illustration botanique faite d'après l'observation microscopique. Mais son livre principal est ce traité sur la culture des agrumes, donc les hespérides ou culture des pommes d'or, publié à Rome en 1546, et qui apparaît comme un des sommets du livre de prestige de la Rome baroque. Hein, voici ici, par exemple, le frontispice gravé d'après Pierre de Cortone, avec une représentation d'Hercule, qui introduit très bien le premier livre de l'ouvrage qui est consacré exclusivement à la reconstitution de l'histoire d'Hercule et des Hespérides, appuyée sur un certain nombre de témoignages antiques. On trouve par exemple dans le livre une très belle gravure de l'Hercule Farnèse, des médailles, des bas-reliefs, tous les éléments sur cette histoire et les étymologies associées. Et l'ouvrage est entremêlé d'autres planches allégoriques, ici une gravure faite d'après un dessin de Poussin, qui représente l'introduction des agrumes auprès des divinités qui représentent le lac de Garde. Et enfin, d'une toute autre catégorie, un texte imprimé de façon très élégante, avec, vous voyez, des très grandes marges, mais qui ne sont pas une particularité d'exemplaire, puisqu'elles sont utilisées pour les planches, qui elles-mêmes débordent largement vers ces marges. Et vous voyez toute une série de 80 planches de toutes les variétés connues, et y compris un certain nombre de variétés monstrueuses d'orange et de citron. Et on a là, vous voyez, on est encore dans des pages qui sont paginées, repérées, inscrites dans la structure des matières, dans la structure des cahiers, même si ici, l'auteur n'a pas cherché à les typographier au verso, comme le faisait son prédécesseur italien un siècle plus tôt. Et là, on a, je trouve, un très bel emploi de la gravure sur cuivre. Et un très bel exemple d'illustration scientifique pour lequel, d'ailleurs, on a récemment, c'est le travail de l'historien de l'art David Friedberg, qui a retrouvé les dessins originaux qui se trouvent aujourd'hui dans la collection royale de Windsor en Angleterre. Et on a pu montrer toute l'importance d'un grand noble romain, Cassiano dal Pozzo, dans ce projet éditorial. C'est lui qui a fait réunir un certain nombre de ses planches, c'est lui qui a financé une partie de l'impression, qui a contribué à chercher des mécènes. Et par contre, ce dernier aspect a dû être un peu difficile dans la mesure où le livre est publié après la mort d'Urbain VIII, à un moment où les Barberini, après avoir régné sur Rome, tombent en disgrâce, et l'auteur se réfugie à Sienne, tandis que Cassiano dal Pozzo, tout seul à Rome, essaye de mener à bout cette ambitieuse entreprise éditoriale. Là, je trouve qu'on a un exemple déjà de parfaite maîtrise de la gravure sur cuivre pour un usage scientifique. Et puis, on trouve un livre qui rentre clairement dans... qui a une réelle ambition de livre scientifique, mais qui se montre parfaitement adapté aux dynamiques du patronage et du livre de prestige. Donc, il a un statut hybride. Et on voit très bien comment, tout en proposant un contenu scientifique important, il se raccroche aussi à la mode très importante dans les milieux nobiliaires romains pour les fleurs, les jardins, et ainsi joue sur différents tableaux et élargit certainement son lectorat potentiel. On est très clairement ici dans la jonction entre un livre qui serait un livre scientifique et quelque chose qui se rapprocherait d'une catégorie qui n'existe pas, mais qui serait celle du livre d'art ou de prestige. Alors après ces exemples en histoire naturelle, je voudrais passer à l'astronomie. Alors l'astronomie qui a aussi des enjeux spécifiques concernant l'iconographie, ils ont été très bien étudiés par Isabelle Pantin, et je renvoie à ses travaux. Mais je voudrais m'intéresser ici à l'exemple de l'astronome danois Tycho Brahe, qui a la particularité d'avoir voulu éditer lui-même ses livres scientifiques. Donc c'est un très grand noble, né en 1546, qui s'engage dans l'astronomie après avoir découvert une nova, donc une nouvelle étoile, qui n'existait pas auparavant, en 1572. Et il publie à ce propos son premier ouvrage astronomique, imprimé à Copenhague en 1573. Cela contribue à lui faire une certaine renommée, et le roi du Danemark, Frédéric II, lui propose de s'installer dans l'île de Ven, au milieu du détroit du Sund, pour y développer ses activités. Et c'est là que Tycho Brahe fait construire un immense manoir laboratoire. Donc imaginez une petite île au milieu du détroit du Sund avec une cinquantaine de tenanciers qui relevaient jusqu'ici de la couronne et qui se voient imposer un nouveau seigneur, et qui construit cet extraordinaire manoir avec toute une organisation interne, avec une bibliothèque, un laboratoire d'alchimie et des toitures aux coupoles ouvrantes qui recouvrent des très grands instruments d'observation. Il s'agit d'une observation exclusivement à l'œil nu, hein, on est avant l'invention de la lunette, mais avec des très grands cadrans qui permettent de mesurer les altitudes des différents astres. Et là, à propos de, sur cet exemple de Tycho Brahe, il y a une intéressante divergence interprétative, notamment parce que Elisabeth Eisenstein, dans son plaidoyer de 1979 sur l'imprimerie comme facteur de révolution, lui accorde une place centrale. D'ailleurs, je signale en passant qu'elle se réclame d'Henri-Jean Martin pour montrer l'importance du livre scientifique dans la logique de rupture de l'imprimerie, alors que lui-même est, on l'a rappelé, beaucoup plus mitigé et beaucoup plus prudent sur ce point. Et à l'encontre d'Elisabeth Eisenstein, Adrian Jones, dans son livre « The Nature of the Book », ouvre précisément son premier chapitre sur Tycho Brahe en essayant de réfuter les positions d'Eisenstein. Et il réintroduit dans son récit les grosses difficultés éditoriales rencontrées par Tycho Brahe, qui avaient été complètement occultées par Eisenstein. Il insiste sur les variantes de présentation que l'on trouve entre les différents volumes, les différents exemplaires de ces éditions, et il conclut que même pour un savant de premier plan comme Brahe, ne parvient pas à faire de l'imprimerie un support fiable de communication scientifique. Et Jones s'appuie sur cet exemple pour relativiser fortement le rôle de l'imprimerie dans la standardisation des connaissances, et il estime par ailleurs que Brahe a voulu éviter le marché du livre, que l'un des enjeux de l'auto-édition, c'était de contourner le marché du livre. Et donc, je voudrais essayer de proposer un bilan plus nuancé de l'édition d'auteur dans le cas de Tycho Brahe. Et le premier point qui me semble important à souligner, c'est la situation où il se trouve sur une île, au milieu d'une mer qui n'est pas toujours praticable, et relativement loin des grandes villes typographiques. Il explique, donc et le cas est assez rare finalement, c'est un exemple d'impression d'édition scientifique en milieu rural, hein, si on insiste sur cette dimension-là. Et lui-même montre bien comment le fait d'être loin de Copenhague et le fait que les typographes de Copenhague ne soient pas forcément compétents pour ce qu'il veut faire est un des arguments qui le pousse à installer ses presses. Je le cite ici, « J'ai décidé d'installer ici à Uraniborg un atelier typographique qui suffise à imprimer mes ouvrages de sorte qu'ils puissent être confiés aux presses sous mon contrôle et que les figures des démonstrations, les nombres et les symboles nécessaires à cette matière soient présentés de façon plus correcte et exacte et que tous ces ouvrages soient examinés par moi-même afin d'être publiés sans erreur. » Et il ajoute immédiatement, « On trouve en effet peu de gens qui soient rompus à ces études est capable de discerner et corriger les erreurs en les indiquant lors de l'impression. » Donc voici les motifs qui l'incitent à installer ses propres presses, non pas dans le manoir lui-même, mais dans l'un des pavillons angulaires qui l'entourent. Et il recrute un typographe allemand Il fait venir les presses et le matériel typographique requis, y compris d'ailleurs des caractères spécifiques pour les impressions de fractions, de symboles de la lune, du soleil ou des signes zodiacaux. Il installe ses presses et il fait réaliser les nombreuses matrices en bois et en cuivre requises pour l'illustration scientifique. Voici un exemple d'une page type de l'un de ses ouvrages, dans lequel on voit l'articulation texte-image relativement caractéristique de ce type de texte astronomique, et puis la complexité. On imagine très bien que ce genre de texte pose des difficultés de relecture spécifiques. Mais ce programme éditorial est confronté à plusieurs difficultés, à commencer par l'approvisionnement en papier. Et l'auteur se trouve à maintes reprises en rupture de papier. Après avoir annoncé un très ambitieux programme éditorial, il se propose d'imprimer 3 volumes sur les phénomènes célestes récents, sous le nom de Proginasmata, et tout cela n'est conçu que comme le prélude à un vaste théâtre astronomique dans lequel il se propose de refonder entièrement la discipline à partir des observations effectuées dans son laboratoire. Et si le second volume des Proginasmata est imprimé dès 1588, Tycho Brahe ne le met pas en circulation car il attend d'avoir imprimé le tome 1. Et donc il pense cette parution du premier tome imminente. Or, les difficultés s'enchaînent et sa correspondance multiplie les allusions à ce qui lui manque pour arriver au bout de ce volume. Et il décide finalement de construire un moulin sur son île pour fabriquer lui-même son papier. Donc il est sur une île où il n'y a pas de cours d'eau, donc il y a un énorme travail de terrassement. Il construit tout un réseau d'étangs en série les uns derrière les autres et pour alimenter le moulin qui se trouve dans une ancienne petite vallée sèche de son île. Et là, il croit avoir résolu son problème éditorial, sauf qu'il n'arrive absolument pas à trouver un papetier. Et donc, il passe des années à recruter un papetier. Il a des papetiers allemands qui, dès l'hiver revenu, n'ont de cesse que de s'enfuir de cette île. Imaginez un peu l'austérité de cette île au cœur de l'hiver. Et à partir de ce moment-là, il n'a de cesse d'annoncer l'achèvement imminent de son livre et de devoir reculer et s'en justifier. Donc en octobre 90, il l'annonce pour le début de 1991. En mars 92, il l'annonce pour l'été. Il commence même à promouvoir son livre en mettant en circulation un fascicule qui sera le premier cahier avec la page de titre d'ensemble de l'œuvre en 3 volumes. Donc il envoie par exemple son fascicule à Vienne pour qu'il le transmette aux libraires d'Autriche, de Hongrie et de Bohême afin de susciter leurs commandes. L'œuvre semble quasiment prête à ce moment-là, et puis le moulin se rebloque de nouveau pendant 3 ans, et Brahe se fait plus discret. Et au bout du compte, on peut voir comment il est obligé d'adapter la divulgation de ses travaux scientifiques au retard de son programme éditorial. Et c'est ce qui l'amène à publier sa correspondance sous forme de lettres astronomiques en 1596 pour se justifier dans le cadre d'une grave controverse qu'il oppose avec un concurrent quant à l'antériorité du système du monde géo-héliocentrique dont il se considère comme l'inventeur. Et là, on voit très bien comment, à partir de matériaux déjà prêts, de lettres qu'il a reçues, de matrices iconographiques déjà préparées pour son grand œuvre, il parvient à improviser rapidement un ouvrage imprimé qui lui permette de défendre ses positions scientifiques et qui lui sert de pierre d'attente en attendant l'impression de plus grande ampleur à laquelle il travaille. Et on retrouve très bien la trace de ces ruptures d'impression en examinant les volumes physiquement conservés de ce premier tome des Proginasmata. On voit de très nombreux changements de papier. On voit aussi la mise en route laborieuse du moulin, notamment les feuilles du moulin. On les reconnaît parce qu'elles ont d'énormes grumeaux, elles ont parfois des trous parce que la pâte a été mal distribuée au moment de la fabrication des feuilles. Et donc, le pompeux filigrane qui représente le manoir du Ranibor, qui était censé être un instrument de prestige, dans un premier temps, sert plutôt à marquer les feuilles de mauvaise qualité à l'intérieur des livres. Et les choses s'aggravent encore dans la mesure où, suite à un conflit avec son souverain et avec ses tenanciers, Tycho Brahe se voit conduit à quitter son île. Donc il se trouve sans patron, sans son laboratoire, sans ses instruments. Et c'est dans ce contexte précis qu'il publie, là encore très rapidement, les Mécanica en 1598. Donc là, c'est un livre somptueux, imprimé sur un papier de très grand format, dont tous les exemplaires ont été donnés. Le livre n'a jamais été mis en vente. On en connaît une quarantaine d'exemplaires aujourd'hui, et je pense qu'on peut supposer qu'il a dû être tiré à une centaine, mais probablement pas plus. Et là, tous les exemplaires rentrent dans une logique de don. Ils portent des reliures aux armes de l'auteur, ils sont personnalisés, ils sont presque tous peints. Et donc, on voit très bien comment ce livre-là, cette édition de prestige, qui réunit un certain nombre de les vues que je vous ai déjà montrées de son manoir, de ses instruments, qui réunit aussi des poèmes d'éloge à l'auteur et à la gloire de son œuvre, ce volume lui sert d'instrument de promotion de sa personne à un moment de transition difficile dans sa carrière scientifique. Et donc, vous voyez, l'édition du volume premier des Proginasmata est interrompue par les lettres, est interrompue par les Mécanica de 1598, et elle n'est finalement achevée qu'à Prague en 1602, un an après la mort de l'auteur. Et donc là, on a un bilan éditorial qui peut sembler assez désastreux, mais je crois qu'il convient de faire la part des choses entre ce qui relève des difficultés éditoriales proprement dites et ce qui relève des problèmes d'élaboration des résultats scientifiques de Brahe, sans parler de sa biographie tumultueuse. Et là encore, l'examen matériel des exemplaires conservés permet de voir la manière dont s'intriquent ces différents paramètres. Et notamment, on le voit notamment un certain nombre d'irrégularités dans la distribution des cahiers qui montrent comment des espaces avaient été laissés vacants pour des cahiers devant être imprimés plus tard. Vous voyez ici, les zones d'irrégularité sont au niveau de ces cahiers PQR, et puis on en retrouve une autre au niveau des cahiers 2K et 2L. Et de fait, les cahiers PQR correspondaient à une interruption de la pagination initiale qui a été finalement comblée par insertion d'un bloc plus important. Donc au lieu d'avoir P4, Q4, R4, on a doubler ces cahiers pour pouvoir rentrer en plus un bloc de 28 pages qui n'était pas prévu dans le schéma initial. Et ici, Tycho Brahe a réservé un espace dans lequel il a mis sa théorie de la Lune qui a pris plus d'ampleur que prévu. Et on a exactement la même chose au niveau de ces cahiers 2K et 2L qui sont dédoublés également et pour lesquels la pagination du livre est localement interrompue et transformée en chiffrage. C'est-à-dire que seuls les feuillets sont numérotés, seuls les rectos des feuillets sont numérotés pour ces cahiers-là, pour retomber sur le bon chiffre de la suite qui était déjà imprimée au préalable. Et donc ici, on voit très bien comment ces interruptions, ces arbitrages se sont traduits par une impression discontinue de l'œuvre. Et on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure, la manière dont ces irrégularités dans la structure même du livre vont être l'indication des points chauds scientifiques, c'est-à-dire des éléments sur lesquels l'auteur déplace ses positions. Puisque dans le second cas, il s'agit d'un catalogue d'étoiles sur lequel il est en train de travailler et qui n'est pas achevé. Il veut arriver à avoir fixé les positions d'un millier d'étoiles pour égaler Ptolémée et il en est qu'à 777 au moment où il imprime. Donc il suspend l'impression de son catalogue. Et ici, je crois qu'un aspect intéressant, c'est que le critère scientifique est déterminant, sans doute, dans ces difficultés éditoriales. Et je crois qu'on est confronté là au problème du perfectionnisme d'un auteur qui se trouve pris au piège de l'auto-édition dans la mesure où il trouve toujours des choses nouvelles à améliorer et à ajouter dans son édition. Il est quelque part paralysé par sa volonté de délivrer des impressions définitives. Il y a sans doute un critère économique qu'il faudrait prendre en compte aussi, puisqu'à la fin, quand il quitte l'île de Venn, ses ressources sont sans doute un peu amoindries. Et par exemple, pour certains de ces cahiers plus tardifs, n'ont été imprimés qu'à 750 exemplaires au lieu des 1500 qui constituaient le tirage normal. Donc là, soit il a voulu se garder la possibilité d'imprimer un état plus définitif du même catalogue d'étoiles, soit il a voulu payer moins cher pour le papier à un moment où il était un peu plus juste financièrement. Donc tout ça pour montrer comment ces difficultés ne sont pas strictement éditoriales, mais relèvent finalement d'un jeu beaucoup plus complexe dans lequel le scientifique, la position sociale du savant et les paramètres économiques et éditoriaux se rencontrent de façon très étroite. Mais pour être complet, un bilan de ce travail d'édition par l'auteur doit aussi prendre en compte les avantages qu'il a pu en retirer. Et déjà, il faut souligner comment la maîtrise des presses, le fait d'avoir ses propres presses, participe pleinement de son programme général de maîtrise du monde, qui préside à la constitution de son manoir laboratoire sur l'île de Venn, et est en soi un instrument de prestige. D'autre part, cela se traduit par exemple par... ça c'était juste pour vous montrer un de ces cahiers rajoutés sur la Lune, avec d'ailleurs une densification des contenus qui se fait au détriment de l'élégance de la mise en page. Et voici comment le fait de disposer des presses lui permet déjà de faire apparaître le nom de son manoir sur ici, il s'agit d'un colophon, et puis de valoriser ici un emblème de l'astronomie qui figure par ailleurs en statue sur la façade de son manoir. Donc il y a tout un jeu symbolique qu'on voit ici, qu'on retrouve à travers le gros travail fait sur les pièces en verre qui valorise aussi ces publications. Et donc on a une portée symbolique du livre sur lequel l'auteur joue pleinement pour asseoir son prestige. D'autre part, dans la mesure où il contrôle le processus éditorial, l'auteur dispose librement des images qui ont été gravées pour ses livres. Et c'est ce matériel qui lui permet aussi d'agir avec souplesse dans des contextes d'urgence. Je l'évoquais à propos de la publication très rapide du volume sur les Mechanica. Mais on retrouve aussi l'usage de ces matrices pour des exemplaires spéciaux qu'il fait pour des princes en les enrichissant de son portrait ou d'une petite annexe d'images d'instruments. Et là, il construit, grâce à la maîtrise de ce matériel typographique, des exemplaires de distinction qu'il utilise dans des jeux de médiation sociale. Et on voit très bien comment de telles reconfigurations, une telle souplesse, seraient beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre s'il était passé par l'intermédiaire d'un imprimeur de métier. Donc, pour conclure ce cas de Tycho Brahe, il me semble qu'il y a bien des problèmes éditoriaux importants, mais qui ne sont pas les seuls à expliquer la laborieuse publication des œuvres. Et il faut sans doute invoquer le fait que dès lors que Tycho se trouve sur cette île au milieu du détroit du Sund et qu'il a à faire des éditions techniques, il n'y avait peut-être pas d'autre solution que celle de l'auto-édition qu'il a été retenue. Donc on ne peut pas non plus la mettre en balance avec une impression en ville qui n'était pas en mesure de faire. Donc pour conclure, il me semble qu'on... Déjà, je voudrais rappeler que tous les livres de science n'entrent pas dans ce schéma de livres un peu complexes, élaborés que j'ai présenté là. Je pense par exemple aux publications de lettres, justement les recueils de lettres scientifiques, qui est un genre important du livre de science et qui va être représenté par des livres beaucoup plus simples et beaucoup plus élémentaires. Et sinon, pour ces livres un peu plus complexes à cause des éléments non textuels, à cause de la masse, il me semble que la présence de ces difficultés éditoriales tend à renforcer l'implication des auteurs. Et là, on voit ici des auteurs beaucoup plus présents dans les opérations éditoriales que ne le laisserait penser le partage des tâches qu'on a parfois tendance à imaginer entre l'auteur qui fait un texte et l'atelier qui transforme ce texte en livre. À ce propos, la notion même de texte, que j'ai utilisée en titre par simplification, montre toutes ses limites face à ce type de livres, qui sont très souvent des assemblages composites, justement, de textes et d'éléments non textuels. Donc il n'y a pas de texte antérieur au livre, qui préexisterait au livre dans ce cas-là. Le livre n'existe en tant que tel, et l'œuvre, finalement, émerge à la sortie des presses une fois que les éléments chiffrés, les données chiffrées, l'iconographie, les descriptions textuelles convergent dans un même objet. Et en général, il n'y a pas de prototype manuscrit qui réunirait tous ces éléments avant le processus imprimé lui-même. Et donc, pour conclure, je voudrais noter que les travaux de bibliographie matérielle ont souvent porté l'accent sur les variations d'exemplaires à l'intérieur des éditions. Et on en retrouve ici, ne serait-ce que par les mises en couleur, le travail sur les reliures, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas que cette approche occulte le phénomène massif qu'est la standardisation liée à l'imprimerie. Et il me semble que dans le cas de la communication scientifique, elle est particulièrement importante en permettant la mise en circulation de représentations stables et partagées. Et c'est justement parce que cette standardisation me semble forte et fortement perçue que des auteurs comme Tycho Brahe éprouvent ce besoin de faire des exemplaires de distinction qui échappent à cette mécanisation de la fabrication, à cette standardisation, et qui seuls peuvent apparaître comme dignes pour le don princier qu'ils souhaitent effectuer. Merci.